Bonjour, plus de 50 militaires français tués, un nombre indéterminé de djihadistes neutralisés, comme on dit, mais aussi de nombreux civils maliens victimes de bombardements. La guerre de la France au Mali se poursuit depuis 8 ans maintenant avec une grande opacité. Alors la presse fait-elle vraiment tout ce qu'elle peut pour informer sur cette guerre au Sahel, dite opération Barkhane? C'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui avec trois invités. Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions de défense depuis de longues années et récemment l'auteur d'une enquête assez retentissante sur les origines de la guerre en 2013 et sur une certaine intox qui aurait été à l'origine de cette guerre. Avec nous également sur le plateau, Myriade Crafray, spécialiste des questions de défense également pour plusieurs médias et notamment au quotidien breton Le Télégramme. Exactement. Et j'ajoute, parce que c'est important, que vous êtes aussi lieutenant-colonel dans la réserve opérationnelle.
Ah ouais. J'en suis très fier d'ailleurs.
Vous en êtes très fier. Et vous avez certainement raison. Et je le dis parce que ça a fait notamment quelques remous il y a quelques temps, cette question de est-ce qu'on peut être journaliste et officier de réserve à l'Association des journalistes de défense. On en avait parlé dans Arrêt sur image. Et enfin avec nous, en visio, comme on dit, Rémi Carayol, également spécialiste des questions de défense pour plusieurs médias, Orient 21 et Mediapart. On parlera aujourd'hui d'une de vos dernières enquêtes dans Mediapart sur le bombardement d'un village au Mali début janvier 2021. Alors, je parlais tout à l'heure de l'opacité de l'armée sur ces opérations au Mali. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ce n'est pas toujours vrai. On voit parfois sur les écrans de télévision française des images des opérations françaises au Mali, parfois sur les plus grandes chaînes d'ailleurs. Parfois sur les plus grandes chaînes d'ailleurs, on avait notamment vu un reportage en décembre, peu avant Noël, sur TF1. La présentatrice Anne-Claire Coudray était allée sur le terrain, elle en était revenue avec de très belles images, l'image du chef d'état-major s'exprimant sur fond d'un magnifique décor, un hélicoptère filmé par lever ou coucher de soleil, on ne sait pas bien, sur le même magnifique décor, et des discussions, des interviews très souriantes avec des militaires français en poste au Mali, en mission au Mali, des très très belles images. Et ce reportage de TF1 avait beaucoup insisté sur le rôle de l'armée française dans l'aide aux opérations maraîchères au Mali.
Combien de temps la France restera au Mali et au Sahel? Sans doute encore des années. Et la victoire militaire ne suffira sûrement pas. La France investit d'ailleurs dans des programmes de développement. Ici, par exemple, à Gao, les militaires ont aidé à l'équipement de 5 hectares de maraîchage qui font vivre plus de 400 familles. L'objectif, profiter de la moindre bulle de sécurité pour restaurer une vie économique des administrations, des écoles. C'est ce qui permettra à cette population, parmi les plus pauvres du monde, de devenir à son tour un rempart aux groupes terroristes.
Alors, tout va bien, tout le monde a le sourire, les salades poussent. Alors, on ne le sait pas forcément, mais dans quelles conditions sont faits les reportages de ce genre-là à la télévision, qui sont quand même assez fréquents?
Ça ressemble quand même un peu à de la communication.
Oui, ça ressemble.
Hein, comme ça, ressemble. On va le dire. En regardant ces images, je pensais, pendant la guerre d'Algérie, il y avait un journal qui s'appelait Bled. Bled comme le Bled, qui était le journal qui était fait par l'armée française. Mais ça ressemblait à ça, en moins moderne, avec pas Anne-Claire Coudray, évidemment, ou même pas une Anne-Claire Coudray de l'époque, c'était plutôt des hommes, déjà. Mais bon, voilà, c'est de la com', c'est honnêtement.
– Qu'est-ce qu'on lisait dans Bled ?–
Ah ben que tout allait bien, qu'on aidait les populations, il y avait les officiers SAS, on faisait des actions, le truc, c'est que l'armée en général et l'armée au Mali en particulier, parce que c'est un pays qui est très beau, ça fait des images incroyablement belles.
On les a vues, hein ?
On les a vues, ça fait des images incroyablement belles. Et donc, évidemment, les télévisions sont extrêmement friandes de ces images qui sont... Voilà, regardez ça, c'est beau, quoi. Les hommes et les femmes en uniforme, les populations qu'on va aider, on survole le désert en hélicoptère, tout ça est magnifique. Sauf que c'est quand même la guerre, et que la guerre, c'est en général assez dégueulasse.
– Alors, juste pour les téléspectateurs qui ne savent pas forcément, quand une équipe de télévision se rend dans ces conditions-là pour filmer, elle est quand même un tout petit peu libre de ses mouvements, elle peut demander elle peut formuler des vœux, aller filmer des opérations... un peu peut-être délicat, difficile, ou alors elle est totalement dans les mains de la com de l'armée ?
Elle est quand même un peu dans les mains de la com. Je veux dire, quand on peut faire des choses, mais le jour où TF1 décide de délocaliser sa présentatrice avec le chef d'état-major des armées, c'est pas ce jour-là qu'on va faire des choses qui grattent. Voilà. D'abord parce que ce serait pas très bien élevé, et puis ensuite parce que ça se fait pas vraiment.
Rémi Carayol, vous avez déjà participé à des reportages, comme on dit, embedded avec les militaires ?
Non, j'ai jamais fait la demande en fait, parce que j'estime que c'est pas forcément propice pour faire un travail correct. Ça peut être intéressant, hein, je n'ai pas l'intérêt, notamment pour avoir des images, effectivement. Mais moi qui travaille pour soit la presse écrite, soit le web, je n'en vois pas l'intérêt parce qu'on ne voit qu'une facette de la situation, et c'est une facette qui est quand même bien modelée en plus par les officiers ou les militaires en charge de la communication qui organisent tout ça, parce qu'effectivement, comme disait Jean-Dominique, ce genre de reportage est façonné en amont, en fait, en collaboration avec le ministère ou avec l'état-major, et la liberté des journalistes est quand même assez restreinte, surtout lorsqu'on se rend dans des zones où clairement c'est dangereux d'y aller.
Voilà, on peut aussi imaginer que ce soit pour des raisons de sécurité que la liberté des journalistes ne soit pas totale. Marie-Adèle Crefray, pour vous, ce qu'on vient de voir, c'est du journalisme ?
Ouais, c'est une forme de journalisme. Moi, j'ai été, ça m'amuse parce que les salades, je les ai visitées. Ah. Voilà, c'était une de mes visites quand j'étais plusieurs fois à Gao, plusieurs fois au Mali.
Mais en tant que journaliste.
Ouais, bien sûr. Oui, je voulais préciser, je suis pas porte-parole des armées.
Non, mais
juste parce que vous avez donc voilà, c'était un prêt point rendu comme on dit.
C'est bien clair.
Voilà, c'est alors, bien donc, clair.
En tant que journaliste, vous avez visité les salades.
Ouais, bien sûr, exactement. Mais pas que. Alors effectivement, ça c'est un micro tableau d'un sujet évidemment beaucoup plus vaste. Libre à Anne-Claire Coudray de faire un sujet sur les salades. On m'a aussi emmené voir ce sujet-là. Et puis après, chacun fait ce qu'il veut.
Vous avez fait un papier
fait un papier sur les salades. J'ai fait un tout petit papier, pour être très précis. C'était il y a 2 ans. C'était un reportage que j'avais vendu à l'époque au magazine Valeurs Actuelles. Et j'avais fait un reportage sur la comptabilité, en fait, de l'action civilo-militaire française. Et je me rappelle très bien... Alors l'action militaire française, si vous voulez, c'est tout ce que font les armées auprès, en direction, en ciblant les populations civiles pour faire accepter la force, pour aider la force à travailler, pour mettre de l'huile dans les rouages humains, etc. C'est tout ça en fait. Hein. C'est creuser des puits, réparer des groupes électrogènes et aider à faire pousser des salades. Voilà, c'est de l'influence concrète. Voilà.
Donc vous aviez quand même un peu fait un papier sur les salades.
Non, j'ai pas fait un papier sur les salades. J'avais fait un papier pour comptabiliser ces problèmes-là. Et d'accord. Je me rappelle bien, le papier était le suivant. De mémoire, je parle, à l'époque, il y a 2 ans, le budget de l'armée de l'opération Barkhane, ça, pour ces actions-là, je parle de mémoire, hein, ça devait être 70 millions d'euros. Et je me rappelle très bien, j'avais une discussion, c'était quelques centaines de milliers d'euros. Et j'avais trouvé ça purement dérisoire par rapport à l'immensité du problème. Et en réalité, j'avais mis ça en rapport avec la difficulté qu'ont aujourd'hui le Quai d'Orsay et, par exemple, les gens qui s'occupent de développement économique avec le Quai d'Orsay à avancer sur ce problème, c'est la problématique du développement qui est évidemment un pan essentiel de ce conflit.
Parce qu'on n'y met pas assez d'argent.
On n'y met pas assez d'argent, et quand on y met d'argent, on se heurte à plein de problèmes. Où va l'argent ? Qui touche des pots de vin ? Est-ce que l'argent ne va pas dans le désert ? Vous voyez, il y a tout un sujet qui est aussi vaste que celui de la sécurité. Voilà.
Alors, voilà, c'était une forme de journalisme, comme vous avez dit. On va maintenant parler d'une autre forme de journalisme, c'est-à-dire celle qui consiste quand même à essayer de faire de l'information sur les opérations militaires, la nature des opérations militaires, la plus précise possible. Et on va commencer par... alors, une info qui remonte au début de l'opération Barkhane, donc on est en 2013. Il faut rappeler comment l'opération a été lancée, donc au début du quinquennat de François Hollande. Hollande arrive en 2012 et en 2013 survient tout d'un coup une information selon laquelle des colonnes de djihadistes se dirigeraient du Nord-Mali vers Bamako. Et c'est ainsi que l'opération est justifiée à l'époque, par exemple, par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Laurent Fabius.
On ne comprend pas forcément bien pourquoi la France, soudainement, est intervenue au Mali. Vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas dans la constitution malienne... je peux me permettre de préciser la question,
monsieur Fonus. Chapitre...
Vous disiez qu'il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de démarcation entre le nord et le sud. Vous avez raison, au Mali, il n'y a pas constitutionnellement. Ouais. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a décidé que les terroristes du nord avaient franchi une ligne et qu'ils allaient dans le sud, puisqu'il n'y a pas de ligne,
vous l'avez dit tout à l'heure. Il n'est pas mauvais de temps en temps de descendre du ciel des idées sur le terrain. Regardez une carte de géographie du Mali. Vous verrez que lorsque des groupes terroristes, et qui sont revendiqués comme tels, qui pratiquent la torture, l'exaction, l'amputation, la mort, quand vous voyez deux colonnes qui descendent, l'une à l'est, l'autre à l'ouest, qu'ils prennent une ville qui s'appelle Kona, qu'ils se dirigent vers Mopti, et s'ils prennent Mopti, ils prennent Bamako.
C'était le dernier verrou.
Lorsque vous constatez qu'ils font ça, alors vous ne posez pas des questions métaphysiques. Le président du Mali appelle un pays qui s'appelle la France au secours et dit « Venez, sinon nous sommes morts ». Et à ce moment-là, dans le cadre de la légalité internationale, la France, et c'est son honneur, décide d'intervenir.
Des colonnes de djihadistes foncent vers Bamako. Justification maintenue ces tout derniers jours encore par l'actuelle ministre des Armées, Florence Parly.
Pourquoi sommes-nous intervenus au Mali? Parce que les autorités maliennes nous l'ont demandé. Parce qu'en 2013, alors que des colonnes djihadistes fonçaient sur Bamako, les autorités maliennes nous ont appelés à l'aide afin d'éviter, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, la chute de leur État et son naufrage dans le terrorisme islamiste.
Et ce qu'on apprend en lisant votre journal L'Opinion au début de ce mois, c'est que c'était une légende.
Oui, c'est ce qu'on appelle dans les médias un storytelling, une façon de raconter une histoire. À l'époque, au nord du Mali, effectivement, le nord du Mali échappe à l'autorité des autorités de Bamako, et c'est contrôlé par ce qu'on appelle des groupes armés terroristes, une insurrection djihadiste. Et on nous raconte qu'en mois de janvier, il y a des colonnes. Donc dans l'imaginaire français, une colonne, c'est un peu une Panzerdivision, quoi. C'est les Allemands qui passent à Sedan et qu'ils font sur la capitale, qui est à 600 et quelques kilomètres, Bamako. Bon, ça, on n'en a aucune preuve.
Jamais.
Il n'y a aucune image.
Personne
aucun
n'a jamais
document,
eu.
Rien n'existe. Et ce que je dis, je ne le dis pas sur des bases comme ça. D'abord, tout ce que j'ai écrit le mois dernier n'a absolument pas été démenti. Personne ne m'a dit « Merchet, vous racontez n'importe quoi, regardez, voilà, je vous montre les enregistrements, les images, les documents ». Tout simplement parce que ce sur quoi je me suis fondé pour écrire cet article, c'est ce que des responsables militaires ont écrit ou dit eux-mêmes. Voilà.
Mais quand ? Ils l'ont dit quand ?
Alors, certains l'ont dit dans des livres récents, d'autres l'ont dit dans des livres un peu moins récents. J'ai simplement fait la synthèse de tout ça.
Vous avez lu des bouquins, quoi ?
Oui, j'ai lu les livres. En général, vous avez le problème, c'est qu'on reçoit beaucoup de livres et on ne les lit pas. Quand on les lit à un stylo à la main, on trouve des phrases parfois un peu bizarres. J'ai même relu le livre, en tout cas la partie du livre « Un président ne devrait pas dire ça » consacré à François Hollande. La manière dont il présente ça, il ne dit pas ça. Il ne dit prudemment pas ça parce que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de colonne. Il y avait des véhicules, il y avait des regroupements, il y avait des choses qui se passaient. Mais on a strictement aucune preuve que leur objectif était Bamako. Même si c'était allé à Bamako, il n'était pas sûr qu'il puisse y rester. C'était loin.
Il fallait prendre le risque.
Attendez. comment elles ont été arrêtées, ces colonnes? Oui. C'est ça qui est intéressant. Oui. La première colonne, s'il y en avait deux. La premier regroupement de véhicules, plus exactement, aurait été arrêté par deux hélicoptères français, dont l'un a été abattu et l'autre son pilote a été mortellement blessé. Puis, trois jours après, de l'autre côté du fleuve, la colonne aurait été arrêtée par 20 combattants des forces spéciales françaises et un hélicoptère. Voilà, ça c'est ce qui est écrit par les responsables du commandement des opérations spéciales de l'époque. C'est pas moi qui l'invente. Donc ça veut, on n'arrête pas des colonnes entre guillemets de cette manière avec des moyens aussi légers.
Mais quand le gouvernement de l'époque, vous avez entendu Laurent Fabius, quand le gouvernement de l'époque nous dit qu'il y a des colonnes, ils y croient eux-mêmes ou ils sont eux-mêmes intoxiqués ?
Alors je pense que au début, c'est une histoire qui est bon. Cette histoire d'intervention au Mali est préparée depuis 2009 à peu près. Nicolas Sarkozy, avant les élections de 2012, dit « on va aller au Mali, mais je ne vais pas le faire maintenant parce qu'on va m'accuser de le faire pour la campagne électorale ». On est au printemps 2012, un an avant. L'opération est préparée un an avant. Donc on n'est pas dans une réaction d'urgence, tout a été organisé, planifié. Le chef d'état-major des armées de l'époque me dit, moi je souhaitais qu'on intervienne en novembre. En novembre, elles étaient où, les fameuses colonnes djihadistes qui fonçaient sur Bamako en noir. Tout ça, je me souviens dans les jours précédant l'intervention, les communicants du ministère, communicants brillants, que je respecte et que j'apprécie professionnellement, et même humainement, me racontent tous les soirs, on va y aller. Voilà, et moi j'ai du mal à y croire. Je me dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter là ? Évidemment. Donc il y a eu une. Il y avait. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de menace. Je ne dis pas que le nord du Mali n'était pas entre les mains de groupes hostiles. Mais raconter comme ça des colonnes fonçant vers Bamako, ça, je dis que ce n'est pas vrai. Et je mets au défi les autorités françaises d'en fournir la preuve.
– En gros, ce que vous dites, c'est, un, ils étaient encore loin, deux, ce n'était pas des colonnes, trois, rien ne laissait penser qu'ils voulaient se diriger vers Bamako, voilà. Et quatre, même s'ils étaient arrivés à Bamako, ils n'auraient pas forcément pu y rester.
Ah ben ça, les responsables militaires de l'époque me le disent noir sur blanc, me disent qu'ils étaient incapables de tenir la ville.
– Pourquoi vous l'écrivez aujourd'hui, en 2021, et pas plus tôt ?–
Je ne l'écris pas plus tôt parce que, un peu, la réponse franche… Parce que je crois que j'ai eu la flemme de le faire en me disant mais je vais l'écrire comme ça. Et là, il y avait un prétexte, une occasion d'actualité, et je me suis dit tiens, mais c'est vraiment le moment. Et je venais de lire deux livres consacrés aux forces spéciales, dont l'un racontant comment ces opérations avaient commencé à être montées en 2009-2010. Donc bien avant, je venais de lire ces livres. Donc il y a eu, comme ça, je me suis dit, allez, je le fais maintenant. Voilà. Mais honnêtement, je crois que ce n'est pas plus que ça.
– Maria Decraffray, est-ce que vos informations vont dans le même sens ?–
Alors, d'abord, je pense que je n'ai pas eu les mêmes, j'ai pas les mêmes sources que celles de Jean-Dominique, déjà.
– Il n'a pas de source, il a lu des livres.
– Non, non, il vous a dit…
C'est ce qu'il nous dit.
Non, il vous a dit qu'il a discuté avec le chef d'état-major des armées qui lui a dit « je voulais y aller en novembre ». C'est ce qu'il vient de dire.
Oui, mais c'est ce que j'écris dans mon papier.
Voilà, d'accord. Vous voyez, donc il n'y a pas que les bouquins. Moi, je n'ai pas parlé avec le chef d'état-major des armées à cette époque-là. En revanche, j'ai publié un livre sur les Touaregs et les Français fin de 2012, début de 2013. Et donc, j'ai travaillé le sujet, la question. Et pour moi, il faut dissocier deux choses. Il faut dissocier le côté politique du côté militaire. Il est clair que dans la sphère militaire, et c'est parti, l'origine de ça, c'est la sphère des services de renseignement qui suivaient à la trace la progression et la multiplication des métastases du djihadisme radical dans le nord Mali, attirer l'attention d'un certain nombre de spécialistes et de politiques depuis quelques années. Ça, c'était clair.
Ensuite, sur le fait qu'il y avait, comme vous dites, des métastases.
Bien sûr, qui se renforçaient.
Mais on n'est pas dans les colonnes.
Attendez. Là, je vous dis, on est en 2012, vous voyez. On est 8 mois avant. Bon, et ces gens-là suivaient la progression du GIA algérien qui était descendu du nord de l'Algérie vers le sud, repoussé par l'armée. Et à un moment donné, fin 2011, début 2012, vous avez la rencontre entre deux opportunités, celle de l'opportunité des rebelles classiques du nord Mali depuis des années, d'une part, et d'autre part, de ces djihadistes-là qui trouvent là une zone de non-droit pour prospérer, pour faire du trafic d'otages et gagner de l'argent. Et vous avez un déclencheur qui est l'intervention malencontreuse de Nicolas Sarkozy en Libye en 2012, qui fait que tous les miliciens, un certain nombre de mercenaires touaregs issus de la région, se sont retrouvés sans boulot, ils sont partis, ils ont quitté la Libye avec des armes qu'ils avaient pillées dans les arsenaux qui étaient ouverts. Ils sont descendus, ils ont dit, maintenant on a des armes, on n'a pas de boulot, qu'est-ce qu'on fait? Et tout ça, à ce moment-là, ça a pris. Et donc,
pardonnez-moi, ce que dit le gouvernement français à l'époque, c'est pas ça, c'est quand même beaucoup plus précis. C'est de dire, il y a deux colonnes.
Non, mais là, on est en janvier 2013. Moi, je vous parle juste avant. Oui. Et à ce moment-là, que font les armées comme ils font à chaque fois quand ils regardent une carte du monde? Ils planifient. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'ils planifient des opérations. Aujourd'hui, les armées ont dans leur carton un certain nombre de plans d'opérations sur des sujets ou des territoires sur lesquels ils pourraient intervenir. C'est juste leur métier, vous voyez ? C'est juste leur métier, c'est ça. Ils planifient. Et donc, à un moment donné, et alors pour le niveau politique, moi, j'ai pas l'information selon laquelle Nicolas Sarkozy voulait y aller en 2012. Ça, j'ai jamais entendu dire ça. En revanche, si Jean-Dominique l'a entendu, voilà. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que moi, quand j'ai travaillé sur le sujet, que j'ai passé plein de coups de fil, je me rappelle à l'été 2012, on me dit, mais vous avez le temps d'écrire votre bouquin. Il faut que ça passe à l'ONU. Il faut qu'il y ait une décision à l'ONU pour qu'on s'engage. Ça va être super lent. Personne n'est d'accord. Et en fait, voilà ce qu'on dit.
Attendez, excusez-moi. Là, vous nous racontez 2012. Après
juillet 2012.
Après le déclenchement, janvier 2013. Voilà. J'imagine que vous enquêtez, vous cherchez à savoir si cette histoire de colonne est vraie ou pas.
Alors, c'est quoi une colonne? En fait, la question est là. Si c'est 200 ou 300 véhicules qui descendaient du nord vers le sud, Jean-Dominique a raison. Maintenant, ils ont quand même arrêté. Non, mais la réalité, c'est ça. C'est qu'en fait, les colonnes étaient en train de se préparer dans les villes du nord, à Gao, à Tombouctou, etc. Il y avait des prémices. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un coup d'État en mars 2012, si je ne m'abuse, à Bamako. Et à ce moment-là, les services ont fait le pari, mais qui reste à démontrer, que les opportunistes qui avaient pris le nord Mali allaient profiter de la situation pour aller plus loin. Et quand les premières colonnes...
Oui, mais le problème, c'est que ce qu'on nous dit à l'époque, ce que disent le...
Attends, je finis mon raisonnement.
Je réagis au pari. Ce que nous dit le gouvernement à l'époque, c'est pas... Il y a un pari, il y a une possibilité...
Alors ça, c'est le storytelling, ça.
Voilà. Ça peut arriver.
Mais le storytelling, si vous l'avez...
Ils disent, ils foncent.
Storytelling.
C'est le storytelling. Ça, il faut bien vendre le sujet, si vous voulez. Bah oui, on vend le sujet. Et alors, il y a quand même un point important.
Non, mais vous êtes gentil, on vend le sujet.
Non, tous les politiques font ça, monsieur.
On intoxique les Français.
Peut-être que les politiques font ça, mais notre métier, c'est de le dire aussi.
Alors après, il est clair que les militaires ont dit aux politiques, si on franchit, si on les laisse franchir une ligne, en l'occurrence Mopti, ils ont dû dire aux politiques, certainement, j'étais pas dans la salle, ils ont dû dire, on prend le risque que leur raid fonctionne, aille jusqu'à Bamako, et là, ce sera une autre paire de manches pour rétablir la situation. Et donc, il vaut mieux, avec ce qu'on sait, avec ce qu'on connaît, attaquer maintenant. Voilà ce qui s'est passé. Alors après, effectivement, il n'y avait pas 300 colonnes, il n'y avait pas 300 pick-up qui ont... Voilà, ils sont intervenus avant. N'empêche qu'ils étaient là quand même, parce qu'on a mis 3 mois pour remonter.
Vous avez repris dans le Télégramme le papier de Merchet dans l'Opinion?
Non, je n'ai pas repris dans le Télégramme.
Rassurez-vous, personne ne l'a repris dans la presse française. Personne. Mais c'est assez habituel, hein, donc je ne suis pas choqué. Hein, voilà. Mais ça fait quand même quelques années que je me guéris, machin. Donc personne ne l'a repris.
Rémi Carayol, vous étiez...
Peut-être Rémi. Ah. Je dis une bêtise. Peut-être Rémi.
Je voulais juste préciser, quand j'entends Fabius qui dit prendre Mopti, c'est prendre Bamako. Là, on est vraiment dans de l'intoxication. Comme disait Jean-Dominique, on est quand même à plus de 600 km à Mopti de Bamako. Il y a encore beaucoup de grandes villes à passer. Et encore une fois, il faut savoir de quoi on parle. On parle de quelques centaines de combattants, de quelques dizaines de pick-up qui descendraient sur une capitale qui compte près d'un million d'habitants. Pour quoi faire? Alors, qu'il y ait eu des craintes au niveau de l'état-major, au niveau des dirigeants politiques, c'est une évidence. Mais par contre, affirmer encore aujourd'hui, comme l'a fait Mme Parly récemment, que l'objectif de ces groupes était de prendre Bamako, comme le dit Jean-Dominique, il n'y a absolument aucune preuve là-dessus. Moi, je vais vous raconter un peu le versant malien de cette histoire, parce que ça fait 8 ans que j'essaye de savoir, en fait, pourquoi les groupes djihadistes ont décidé de faire mouvement vers le sud. Pourquoi au Mali, peu de gens comprennent qu'est-ce qui a pu pousser Iyad Agrali, qui était alors l'un des chefs djihadistes qui est aujourd'hui le chef djihadiste de la nébuleuse djihadiste sahélienne, pourquoi Iyad al-Ghali, qui est un fin stratège, décide de faire mouvement vers le sud? Il y a plusieurs hypothèses, mais il y en a très peu qui pensent que c'était pour venir prendre Bamako. Il y a effectivement la question de Sévaré, qui est une ville, et non pas de Mopti. Sévaré est à 10 km de Mopti, mais Sévaré, c'est la ville charnière parce qu'il y a l'aéroport, en fait. Et ça, effectivement, s'il prenait Sévaré, ça devenait compliqué d'intervenir après, parce qu'il prenait l'aéroport. Mais il y a d'autres hypothèses qui sont on va dire, plus locales. Moi, on m'a raconté qu'un très proche de Iyad avait raconté, avant de mourir, parce qu'il a été tué, avait raconté donc, à une personne qui me l'a elle-même raconté, que s'ils sont allés du côté, non pas de Sévaré, mais du côté de la rive gauche du fleuve Niger, donc vers Diabali, c'était la deuxième colonne, entre guillemets, s'ils sont allés là, c'est parce qu'ils étaient appelés par les populations. À l'époque, dans cette zone, il y a encore l'armée malienne. Et il y a des exactions contre des populations, notamment contre les Peuls, qui sont considérés comme étant complices des djihadistes.
Des exactions de l'armée malienne.
Oui, de l'armée malienne. Et certaines personnes appellent les djihadistes et leur disent « Nous, on veut se défendre, venez nous aider. » Voilà. Et ils viennent. Et ils viennent. Je ne dis pas que c'est l'unique raison, mais il faut comprendre qu'en fait, il y a d'autres raisons qui peuvent avoir poussé les mouvements à descendre. Et personne, vraiment personne, aujourd'hui au Mali, ne croit qu'ils voulaient venir prendre Bamako.
Alors, ça, c'est sur les motivations des djihadistes. Et c'est intéressant. Pour en finir avec cette histoire du déclenchement et des raisons du déclenchement de l'opération en 2013, alors elle a été justifiée par le gouvernement français, évidemment par le terrorisme. Il fallait contenir les djihadistes sur le terrain là-bas pour les empêcher de venir en France. Toute une série de gens ont soupçonné d'autres motivations, comme toujours. Alors, pas tellement dans la presse traditionnelle, mais beaucoup sur les réseaux sociaux et dans les conversations. Et une motivation qui a été soupçonnée parmi d'autres, c'est il faut défendre l'uranium nigérien, parce que l'uranium nigérien est important. Je voudrais juste qu'on écoute un dialogue qui était sans doute assez improvisé sur le plateau de Laurent Ruquier entre l'humoriste Jérémy Ferrari et le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls.
Des soldats se sont fait trouer pour aller soutenir un pays où il n'y a pas un seul intérêt économique. Pas un seul. D'accord. Vous connaissez le Mali ? Pas un seul pour libérer ce pays qui allait être sous l'emprise des terroristes.
Il n'y a pas de pays derrière qu'on protège.
Et nous intervenons. Nous protégeons le Sahel.
Quand on attaque le Mali, il n'y a pas de pays derrière où on a des intérêts, par contre.
Si, il y en a un, notamment le Niger.
Il me semble bien.
Et il y a un pays, et il y a un intérêt fondamental, c'est l'uranium, pour évidemment nos industries dans le nucléaire. Mais il n'y a aucune honte à le dire.
Alors, il n'y a aucune honte à le dire, mais c'est quand même rarement dit. Est-ce que c'est une motivation? Est-ce que la défense des mines d'uranium au Niger est aussi une motivation?
Moi, je ne crois pas que ce soit la motivation première, réellement. Hein. L'histoire du Mali, c'est une histoire très politique. On ne veut pas laisser s'installer des pouvoirs, une insurrection islamiste dans un endroit qui deviendrait une zone de non-droit, comme a pu l'être une partie de la Somalie, comme l'a été l'Afghanistan à l'époque des talibans. Voilà, on a peur de ça, et on a sans doute raison d'avoir peur. Mais les affaires de l'uranium du Niger, oui, c'est... Mais on est au Niger, c'est à côté. Alors évidemment, tout ça. Mais ça existe. Mais je ne pense pas que ce soit la cause principale. Voilà.
La cause principale cachée au culte.
Oui, non, je crois que là, on est dans des formes de complot. C'est pas les intérêts économiques de telle ou telle entreprise française qui font que l'armée française.
Parce que si la France n'a plus accès à l'uranium nigérien.
En réalité, on avait un raisonnement purement économique,
Alors, justement,
on passerait des accords avec les djihadistes et on s'entendrait avec eux. Comme on sait, comme la grande Amérique s'est formidablement entendue avec le pouvoir wahhabite en Arabie Saoudite qui coupe des têtes et des mains, ça n'a jamais gêné personne, et ils ont toujours exporté leur pétrole. Donc si la logique économique dominait, qui coupe des mains et des têtes, on s'en fout, on achète le produit au prix que ça coûte. Voilà.
Rémi Carayol, vous êtes d'accord, ce n'est pas la motivation première ?
Non, c'est vrai que c'est une idée, une thèse qui est développée chez de nombreuses personnes, et notamment en Afrique, beaucoup, par de nombreux Africains. Mais Non, parce qu'effectivement, au Mali, il n'y a pas d'intérêt majeur économique pour la France, et que même dans les pays voisins, essentiellement le Niger, il y a l'uranium. Mais bon, d'abord, le Niger était un État relativement solide, jusqu'à il y a peu de temps, et puis les mines étaient elles-mêmes déjà sécurisées par des forces spéciales et des agences de sécurité privées. Je ne crois pas à cette thèse-là, et je pense qu'elle est assez peu fondée, même s'il ne faut pas évidemment ignorer, c'est un pan important, l'uranium, on sait à quel point, quelle place il occupe dans l'économie française, mais ce qui s'est joué en 2013, ce n'était pas ça, je ne pense pas.
Alors, on vient de parler d'une intox française, et vous nous avez dit qu'il circulait aussi des intox africaines, hein, justement à propos de l'uranium, et ça nous amène à analyser le fait que les guerres d'intox et de contre-intox se déroulent aussi sur les réseaux sociaux, maintenant de plus en plus, pas seulement à la télé. Maurice Midena, journaliste d'Arrêt sur Image, qui est en visio depuis la salle de rédaction qui est exactement à 12 mètres de nous, vous êtes intéressé à une de ces guerres d'intox sur les réseaux sociaux.
Oui, exactement, Daniel. L'armée française a été accusée depuis son arrivée au Sahel de différentes choses, entre autres d'avoir livré des motos et même des armes aux djihadistes de l'État islamique, ou même, comme ça vient d'être dit, de sécuriser des mines d'uranium. Un compte Twitter, Stop Intox Westaf, combat ces intox et a même diffusé cette vidéo débunkant ces fake news.
Alors Maurice, on a cherché à savoir qui était derrière ce compte Twitter qui débunk, comme on dit, ces fake news anti-Barkhane, anti-françaises.
Ouais, on a essayé de voir, et parce que surtout, en plus de ces vidéos, il y avait de nombreux comptes, il y avait de nombreux tweets pro-Barkhane diffusés par ce compte, du genre « les collectifs contre l'intervention française sont les premiers propagateurs de fake news, des diffuseurs de haine », ou encore « tout Africain soucieux de la paix sur son continent ne peut vouloir le départ total et immédiat de la France ».
Donc il y a beaucoup de défenseurs de Barkhane sur Twitter. Hein.
Exactement. Et en fait, on a consulté des documents et recueilli différents témoignages qui nous ont permis d'identifier une cellule de cyberactivistes donc en ligne de décembre 2019 à janvier 2020, en marge du sommet de Pau qui a réuni les dirigeants français et les dirigeants de pays du Sahel. En marge donc de ce sommet, cette cellule a multiplié les messages en faveur de l'opération Barkhane sur Twitter. Cette cellule de cyberactivistes, elle était composée d'une dizaine de membres, très très majoritairement, ils étaient tous des étudiants en communication en Côte d'Ivoire. Leur action était coordonnée depuis la France, via une conversation WhatsApp par laquelle ils recevaient chaque jour les différents éléments de langage à diffuser dans leurs tweets. Et ces cyberactivistes publiaient des tweets non seulement via leur propre compte, mais aussi via des faux comptes, des fausses identités, avec des noms comme Olivier Ducharme ou Issiaka Koulibaly.
Attendez. Il y a un compte qui débunk les intox. Il y a des faux comptes. Qui est derrière ?
Alors, d'après donc notre enquête, c'est derrière donc cette opération de propagande se cache une agence de communication parisienne qui s'appelle Concerto. C'est une agence qui a été fondée en 2015 et qui est de plus en plus influente en Afrique. Ils conseillent notamment le président de Madagascar, aussi un opposant politique en République du Congo qui s'appelle Moïse Katumbi, ou encore le premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Et alors, ce qui fait que, en plus de ces tweets, Concerto a mis en place de fausses signatures de journalistes répondant au nom de Mohamed Kaboul et de Guillaume Lafargue. Sous ces pseudonymes, le Concerto a publié des tribunes et des papiers de décryptage de la situation au Sahel dans des médias africains, mais aussi dans le blog de Mediapart. Tous ces articles louaient l'opération Barkhane.
Ah bon, et bon, et alors Concerto, ils reconnaissent que c'est eux?
Alors du coup, Concerto a confirmé avoir être derrière le compte Stop Intox Westaf, ouais, qu'ils animent avec des partenaires. Par contre, ils nient être à l'origine de cette campagne. Et de l'autre côté, l'état-major de Barkhane nous a affirmé, je cite, ne pas entretenir de liens contractuels avec Concerto.
Bon, en même temps, s'ils avaient... Ben, c'est une vraie question. Alors, s'ils avaient entretenu des vrais liens contractuels, c'est-à-dire si Concerto, cette agence de com, faisait un peu d'intox sur les réseaux sociaux pour le compte de l'état-major, d'abord, est-ce que ça vous paraîtrait inimaginable?
Moi, ça ne me paraît pas crédible. Non, ça ne me paraît pas crédible. C'est-à-dire que,
pourquoi?
Je vais vous expliquer. L'état-major des armées, aujourd'hui, a beaucoup communiqué beaucoup sur ce qu'ils appellent la cyberguerre, la cyberinfluence, etc. Ils communiquent aussi aujourd'hui qu'ils font de l'offensive, ce qui est totalement nouveau, parce que jusqu'à présent, ils ne le disaient jamais. Donc, depuis un an, ils assument le fait qu'ils sont offensifs sur les réseaux sociaux.
C'est peut-être ça, l'offensive.
Ben, je suis en train de vous répondre. Si vous me laissez terminer, je vais pouvoir développer mon sujet. Ouais. Okay. Donc, donc, en fait, l'état-major des armées, quand elle fait son influence ou son offensive, elle le fait en interne. Elle ne va pas chercher Concerto, elle n'a pas besoin.
Ils ont les gens pour faire ça.
Ah bah ouais, bien sûr. Bien sûr, sur le terrain, à Paris.
Mais ils ont les gens pour créer des faux comptes Twitter, pour créer des fausses signatures.
Ce qu'ils font, j'en sais rien. Concrètement, je ne sais pas. Oui, mais ils ont les spécialistes, bien sûr. Aujourd'hui, c'est public, ça.
Ouais. Non, mais bien sûr, c'est bien sûr.
Quoi, bien sûr, les faux comptes Twitter, les fausses signatures de faux journalistes.
Ils ont même été pris la main dans le sac sur la République centrafricaine, puisque Facebook a fermé les comptes. Facebook a fermé il y a deux trois mois, a fermé des comptes russes et des comptes français. Oui, mais bien sûr, les armées ont des cellules spécialisées là-dessus.
À Lyon,
il y a une équipe à Lyon, il doit y avoir des équipes à l'état-major des armées.
Vous avez même sur le terrain, à l'opération Barkhane, vous avez une cellule qui s'occupe de ça.
Mais j'ai envie de dire, sous signature ou sous fausse signature?
Sous fausse signature, bien sûr, bien sûr.
Mais tout le monde fait ça aujourd'hui, monsieur. Bien
sûr.
Si vous avez une action, une réaction. Chacun joue son jeu, quoi.
Honnêtement, encore une fois, maintenant on parle de guerre informationnelle, on parlait d'action psychologique.
J'ai vu passer notamment un blog de Mediapart. Il faut prévenir vos petits copains de Mediapart. Là, qui a un blog qui a une fausse signature. Ils sont peut-être pas au courant.
Ces deux noms, je ne les ai absolument jamais croisés, ni physiquement, ni dans mes lectures. Donc effectivement, ils sont très curieux.
Il faut lire les blogs de Mediapart.
Intéressant, c'est de savoir qui a payé Concerto. J'imagine que Concerto ne fait pas ça bénévolement. Ou alors, il faut qu'on m'explique deux, trois choses. Qui a payé Concerto? Évidemment, mais tout ça, tout ce petit milieu.
En tout cas, l'enquête de Maurice Midena est à lire sur le site d'Arrêt sur Image. Voilà, les photons de Twitter pro-Barkhane. Alors, on va en venir maintenant à la dernière guerre de communication en date, dont celle qui a provoqué ce bombardement d'un village du nord Mali au début janvier. Le 3 janvier, le village de Bounti, bombardement, 19 morts, premier bilan de 19 morts. Des sources sur le terrain et s'exprimant aussi par les réseaux sociaux assurent qu'il s'agissait d'un mariage, que c'est un mariage qui a été bombardé. Le gouvernement français explique de façon très claire qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de mariage, qu'il s'agissait de combattants djihadistes qui avaient été repérés dans les heures et les jours précédents. Je voudrais qu'on écoute d'abord des témoignages qui ont été recueillis par la chaîne TV5.
C'est dans le quartier de Niamana, en périphérie de Bamako, qu'il raconte ce qu'il a vécu, entouré de ses amis. Il y a trois jours, Amadou Diallo était à Bounti, à 600 km de là, un village en plein mariage. Les noces ont viré au drame.
Tout le monde attendait le repas du mariage. Soudain, nous avons aperçu un avion au-dessus de nous. Il volait très bas. Et d'un coup, de loin, j'ai entendu un grand boom. C'était la panique totale. J'ai pris la tangente avant d'entendre le second oui. J'avais déjà quitté le village.
Voilà, un reportage de TV5. Et donc, version gouvernementale, Florence Parly, il n'y avait pas de mariage ni d'enfant.
Il y a une semaine, c'était dans le centre du Mali et certains villageois disent qu'il y avait des noces et qu'un hélicoptère a tiré. Hélicoptère, était-il français, qui aurait tué des civils sur place?
Le 3 janvier, nous avons, après une action de reconnaissance et de renseignement, nous avons identifié un groupe terroriste. Cette identification s'est produite dans le centre du Mali, à proximité d'une localité qui s'appelle Bounti. Et nous avons engagé pour ce faire deux avions de la chasse française basés à Niamey, qui sont des Mirage.
Qui ont éliminé des dizaines de djihadistes.
J'ai évidemment pris soin de procéder moi-même aux vérifications, qu'il n'y avait ni mariage, ni femme, ni enfant, qu'il s'agissait d'hommes et exclusivement d'hommes, conformément aux renseignements que nous avions recueillis.
Alors Rémi Carayon, je vous ai vu sourire pendant cette déclaration de Florence Parly. Quand on se trouve devant cette situation, c'est-à-dire vraiment version contre version, comment on enquête? Qu'est-ce que vous avez fait?
On essaye d'avoir des sources locales. C'est pas facile parce qu'on est là dans une zone, c'est le centre du Mali, c'est l'une des zones les plus difficiles d'accès, que ça soit physiquement, mais même par les communications, parce que la communication est très mauvaise et les gens ont peur de parler, surtout parce qu'on est dans une zone qui est grosso modo aujourd'hui contrôlée par les groupes djihadistes. Donc, on essaye d'avoir des sources locales par différents moyens, via des associations, mais via aussi des connaissances, pour essayer d'avoir le plus de témoignages possibles et pour essayer de confirmer. On essaye aussi d'avoir des sources officielles.
Je précise que vous avez procédé par téléphone.
Oui, moi j'étais en France quand j'ai travaillé. On est plusieurs journalistes en fait à avoir essayé de travailler là-dessus depuis la France ou depuis Bamako. Personne n'est allé sur place, en tout cas en tant que journaliste, sur place parce que c'est trop dangereux. Donc on essaye d'avoir des éléments. Il faut savoir qu'en fait pendant plusieurs jours, moi et d'autres journalistes, nous avons travaillé sans avoir aucune communication de l'armée. Parce que bon, ils ont fait un petit communiqué le mardi, donc le bombardement a lieu le dimanche, ils font un petit communiqué le mardi parce qu'ils savent qu'il y a une dépêche AFP qui va sortir, sinon ils n'auraient pas communiqué, qui est très sommaire, et ils donnent beaucoup plus d'informations le vendredi. En gros, pendant 5 jours, on a essayé d'avoir des éléments sans avoir vraiment la version des autorités françaises. Très rapidement, en fait, de par les différents témoignages moi, que j'avais eus, j'avais la quasi-certitude que oui, il y avait un mariage. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont été tuées étaient des civils. Ça ne veut pas dire ça. Mais oui, il y avait une cérémonie ce jour-là, dans ce village. Quand on entend les autorités dire qu'il n'y avait que des hommes, ben oui, effectivement, il n'y avait que des hommes. Les mariages au Mali, déjà traditionnellement, ne sont pas les mêmes que chez nous en France, premièrement. Deuxièmement, on est dans une zone qui est contrôlée par les djihadistes. Ils édictent des règles. Parmi ces règles, les hommes et les femmes, durant les cérémonies, ne doivent pas se mélanger, de même que les cérémonies ne doivent pas être festives. Donc, oui, il n'y avait que des hommes, effectivement, mais sur ces hommes, il y avait peut-être des combattants. Plusieurs sources affirment qu'il y avait probablement des combattants, mais il y avait aussi des villageois. Il faut savoir que les combattants, ce sont des villageois. Ce sont des gens du cru qui ont pris les armes pour une raison ou pour une autre. Et que différencier en étant sur le terrain, c'est quasiment impossible, mais différencier avec des caméras qui sont à plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres dans le ciel, c'est absolument impossible de différencier un civil et un combattant d'un groupe djihadiste.
Pourquoi l'état-major et la ministre de la Défense n'ont-ils pas simplement dit ce que nous dit là Rémi Carayol, c'est-à-dire que oui, il y avait un mariage, mais qu'il y avait aussi des combattants parmi les assistants au mariage?
C'est ce que dit Rémi Carayol.
Et qui n'est pas vrai?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi. Voilà, il y a une version qui s'oppose à une autre version, monsieur.
Non, elles ne s'opposent pas catégoriquement.
Elles ne sont pas d'accord.
Elles ne s'opposent pas catégoriquement. Il y a la version du mariage et il y a la version des combattants. Mmh. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y avait peut-être des combattants parmi les gens qui étaient dans le mariage.
Peut-être.
Vous avez enquêté?
Peut-être.
Vous avez enquêté?
Non, mais moi, je n'ai pas enquêté sur le terrain, non. Mais moi, je vous dis peut-être. peut-être vous avez deux versions qui s'opposent. On est clairement là dans le brouillard de la guerre, c'est-à-dire que vous avez deux versions qui s'opposent. Ce que je constate quand même, c'est que ceux qui remettent en cause la version de l'état-major des armées ont changé plusieurs fois de braquet. Hein. Au départ, on parlait d'hélicoptères et de frappes de nuit, on n'en parle plus. Au début, on disait qu'il y a des femmes et des enfants qui ont été tués, on n'en parle plus. On ne parlait pas de drones, maintenant on parle de drones. Donc, moi, ce que je constate, je ne prends pas parti, hein. Ce que je constate, c'est qu'on a une version officielle qui a tardé, je pense que 5 jours, comme l'a dit le journaliste, pour donner une version. Je pense que là, bien sûr. Il fallait tout de suite réagir. Il fallait tout de suite monter au créneau. On peut en discuter. Ça me paraît assez évident.
À votre avis, pourquoi l'armée ne l'a pas fait ?
L'armée, c'est une organisation aussi un peu technocratique, d'une part. D'autre part, vous avez toute la problématique des opérations. Toute la problématique des opérations, c'est-à-dire que les gens, en fait, remplissent des procédures, suivent des voies hiérarchiques, etc. Puis ensuite, il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il faut visionner, débriefer, etc. Je pense qu'également, le politique a dû se mettre dans la boucle et il a dû y avoir des concertations. Donc, vous augmentez les boucles de décisionnaires et vous arrivez à des 3 jours, 4 jours, 5 jours, alors que sur ce type de sujet, typiquement, il faudra aller beaucoup plus vite. Ça me paraît...
Pourquoi personnellement, c'est vraiment une question, personnellement, n'avez-vous pas enquêté comme Rémi Carayol ? Parce qu'apparemment, c'est possible. –
Oui, sans doute. Moi, j'ai fait autre chose. Enfin, voyez,
ah, voilà, d'accord. Bon, ouais, c'est voilà. Une bonne raison. Oui, vous vouliez intervenir, Rémi Carayol ?
– Oui, d'abord, ce n'est pas seulement ma version. Il y a d'autres journaux, il y a aussi des organisations. Je pense à HRW qui a sorti un rapport assez circonstancié. Il y a France Info qui a réalisé un reportage et des sources internes à la MINUSMA qui a mené une enquête et qui sortira un rapport.
Et un papier très complet de Libération ce matin, hein, qui voilà, rejoint plutôt vos conclusions. Oui. Terminez.
Donc, même des sources internes au sein de la MINUSMA confirment qu'il y avait bien un mariage. Bon, cela étant dit, pour revenir sur ce que dit M. Raffray, pour avoir enquêté sur de nombreuses exactions et bavures, pas seulement de l'armée française, mais des autres armées nationales dans cette zone. Mais oui, au début, il y a toujours des informations différentes qui nous arrivent. Mais imaginez qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est bombardé dans son village. Il y a forcément un effet de sidération
et
des versions qui sont divergentes, sans oublier qu'il y a les rumeurs. C'est-à-dire qu'on passe un coup de fil, on passe un deuxième coup de fil, les versions divergent. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans une stratégie de guerre informationnelle, comme les autorités françaises ont pu le dire très rapidement, visant à coûte que coûte dire que la France avait fait une bavure.
C'est toute la difficulté du métier d'enquêteur, hein, ça c'est évident. Hein, et on est dans le brouillard de la guerre, et en plus on est dans une guerre irrégulière, donc ça rajoute à la difficulté. C'est évident, c'est pour ça que c'est très compliqué.
On est d'accord, et je voulais juste appuyer sur quelque chose. C'est pas la première fois que la France est accusée de bavure au Sahel. Elles sont très rares, les accusations, il faut le dire. Hein. Beaucoup de sources militaires de la zone disent que la France vraiment est très correcte en la matière. Mais à chaque fois qu'il y a eu bavure, on a assisté au déni total de la part des autorités. D'abord, il y a silence. D'abord, c'est le silence total. On se tait, on espère que ça ne va pas dépasser les quelques réseaux sociaux, Facebook, Twitter, maliens. Voilà. Et ensuite, quand ça commence à intéresser les journalistes français, là, on commence à réagir, mais on nie. On nie en bloc. Et jamais, jamais jusqu'à présent, la France n'a reconnu une seule bavure dans la zone sahélienne depuis 8 ans qu'elle se bat. Juste quelques chiffres. En 2020, 128 actions de combat de la part de l'opération Barkhane. 206 bombes tirées par la chasse. Je ne compte même pas les drones. 1200 à 1500 combattants qui auraient été tués l'année dernière. Je ne parle que pour 2020. Et zéro erreur. Chapeau.
Oui, plusieurs choses. Alors, d'abord, je n'ai pas réellement enquêté sur cette affaire, pas par manque d'intérêt, parce que j'ai lu ce que les confrères ont fait attentivement, mais j'étais vraiment pris sur d'autres sujets, donc je n'ai pas enquêté là-dessus. Donc je tiens quand même à le dire. Moi, je pense que les deux versions sont vraies en même temps. C'est-à-dire que c'était évidemment un mariage. Et dans ce mariage, il y avait des combattants djihadistes. Parce que tout le problème, c'est de le dire comme ça. Parce que quand on dit comme ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les combattants djihadistes
sont comme un poisson dans l'eau. C'est une insurrection. C'est une insurrection. Ils sont pas, on dit, des groupes armés terroristes. Alors on voit des réseaux secrets comme ça qui s'infiltrent dans les villages. Pas du tout. C'est pas ça. Ce sont des gens de là. Ce sont, ils sont, c'est leurs cousins, leurs alliés, leurs familles, leurs proches. Et c'est en face de ça que c'est ça, ces gens-là.
Politiquement,
que nous, et politiquement, c'est France, très compliqué.
Politiquement, la France très ne peut pas le reconnaître.
Parce que ça veut dire que ce que nous combattons au Mali, ce ne sont pas des groupes armés terroristes. Parce que dans l'image, encore une fois, on est dans un storytelling, voilà, une construction médiatique. Ouais. Parce que lorsque on parle de groupe armé terroriste, lorsqu'un Français est dans sa voiture et qu'il entend les groupes armés terroristes, pour lui, il voit les réseaux qui ont commis des attentats à Paris. Il s'imagine que c'est quelque chose comme ça. Ce à quoi nous faisons face au Mali est à une insurrection d'une partie de la population, c'est toujours minoritaire, il y a toujours des éléments qui peuvent terroriser les autres. Bref, ça existe, comme dans toutes les insurrections.
Vous savez pourquoi vous me stupéfiez ? Parce que je pense que je n'ai jamais lu ce terme « insurrection » dans un article consacré au Mali. Jamais.
Je vais regarder sur mon moteur de recherche personnel.
Je n'ai pas forcément tout lu. Depuis 8 ans,
il y a des régions entières qui sont hors contrôle parce que, évidemment, on ne sait pas si ces insurgés représentent la majorité de la population, mais on ne sait jamais. On ne l'a jamais su pendant la guerre d'Algérie, on ne l'a jamais su pendant la guerre de Chine, on ne l'a jamais su en Afghanistan. On ne le sait jamais, il n'y a pas d'élection, on n'en sait rien. Sauf que nous avons affaire à des mouvements. Il faut relire.
Insurrection, Jean-Dominique, c'est très général. Insurrection, ça suppose que la totalité de la population.
Non, pas forcément. Pas forcément. Il faut lire ce qu'écrit d'ailleurs toujours, puisqu'il est toujours en pleine forme, Gérard Chalian, le grand spécialiste des guérillas, des insurrections. Nous sommes face à des guérillas là-bas, pas des réseaux terroristes. Et c'est ça qui est important. Mais ils utilisent le terrorisme comme moyen d'action, mais nous sommes face à des guérillas.
Et vice-versa. Non, mais vous endossez le terme d'insurrection ?
Mais moi j'ai écrit ça, j'ai écrit un bouquin sur les insurrections. J'ai écrit un bouquin
sur le Mali, vous l'avez écrit ?
Bien sûr, j'ai raconté l'histoire de l'insurrection du Nord-Mali, monsieur. Donc,
j'ai pas été assez attentif.
Voilà. Non, mais là où Jean-Dominique, à mon avis, a appuyé sur un point essentiel, c'est là, la communication officielle paye le prix, encore une fois, de son storytelling. Quand vous allez au Mali, ou quand les autorités vous disent qu'on est là pour tuer du terroriste et uniquement du terroriste, c'est du storytelling. On ne peut pas, à un moment donné, si vous pouvez dissocier les grands chefs tout en haut, les grands chefs, ça c'est possible. Mais tous ceux qui sont en dessous, monsieur, sont tous imbriqués les uns avec les autres, les uns dans les autres. C'est bien toute la difficulté et toute la spécificité de ce conflit. Et c'est là où dire qu'on fait la guerre aux GATT, c'est un concept de communicant.
Depuis 8 ans.
Voilà, c'est aussi simple que ça.
Depuis 8 ans, la France combat une insurrection. Il faut rester ?
Alors, ça. Ça, c'est encore un autre sujet.
Je
veux bien qu'on parle de ça,
Je parle à un spécialiste. C'est gagnable ?
Qu'est-ce qu'on appelle gagner une guerre aujourd'hui, monsieur ? La question ne se pose pas comme ça. C'est si on reste, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd ? Si on part, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd ? Et ensuite, c'est ce qu'on appelle, comme disent les Américains, l'équilibre des balances. Je veux dire, quand vous parliez tout à l'heure d'uranium, vous savez. Tous les États du monde qui sont des puissances travaillent en fonction de leurs intérêts. C'est pas sale, c'est pas méchant, c'est comme ça. C'est la vie, quoi, en fait. Hein. Donc, c'est la vie des relations internationales. Donc, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd ? La question, elle est comme ça.
Il faut rester, c'est gagnable ?
Non seulement c'est pas gagnable, mais c'est perdu. Voilà, c'est perdu. On a perdu. Le jour où on a décidé de rester après la première opération qui s'appelait Serval, quand on a décidé de rester au-delà d'un an, ce jour-là, on a perdu. Voilà, donc ça fait 7 ans qu'on a perdu. Et on va continuer, voilà. Cette guerre est perdue. Alors, on va avoir beaucoup de mal à s'en extraire, comme les Américains ont énormément de mal à s'extraire de l'Afghanistan ou de l'Irak. Mais évidemment, il n'y a aucune autre solution. On ne gagnera pas cette guerre. Évidemment, après, j'entends bien qu'est-ce que c'est que la victoire, tout ça. Enfin, on ne sait pas ce que c'est la victoire. On sait, en revanche, souvent ce que sont les défaites. L'Occident n'a pas gagné une de ces guerres dans cet univers depuis 50 ans. Je ne vois pas pourquoi ça commencerait aujourd'hui au Mali.
Rémi Carayol, la guerre est perdue.
Je pense comme Jean-Dominique, et finalement, quand on regarde de près les déclarations de nos... Bon, d'abord, des responsables de l'état-major, qui sont souvent beaucoup plus proches de la réalité que les dirigeants politiques, mais même de quelques dirigeants politiques, ils l'admettent, cette guerre ne peut pas être gagnée. Ils parlent de victoire tactique.
Non, il va plus loin, hein. Il va plus loin, Merchet. Il dit « elle est perdue ». Les mots ont un sens, hein.
Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est perdue d'ores et déjà? Elle ne peut pas être gagnée. Donc, par définition, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut ne pas perdre une guerre qu'on ne peut pas gagner?
Allez, on va rester. On va rester.
Là, ça devient de la théologie compliquée.
On va rester sur cette vaste question. En tout cas, merci à tous les trois. Parce que je pense qu'on a vraiment abordé le sujet en des termes en lesquels on n'a pas l'habitude de l'aborder ni de l'autre côté de l'écran de l'entendre. Merci encore. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.